Enjeux internationaux, Thierry Garcin, bonjour, bonjour.
Et rebonjour Marc.
Et direction le Québec.
Voilà, à propos évidemment des élections et en ligne Jacques Porte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à Paris 8, vous êtes spécialiste bien sûr de l'Amérique du Nord. Alors victoire confortable du Parti libéral, 71 sièges sur 125, 29 seulement pour le Parti québécois. Le Premier ministre sortant, Mme Marois, ayant démissionné de la tête de son parti, ayant même été battue dans sa circonscription. 6 millions d'électeurs, des élections très anticipées puisque la législature courait jusqu'en octobre 2016. Et le mode de scrutin à la britannique, uninominal, majoritaire à un tour. Et puis le gouvernement sortant était minoritaire. Alors, on va analyser ces résultats, Jacques Porte.
Et merci, oui.
Et merci d'être avec nous. Mais alors, d'abord, pourquoi des élections anticipées et très anticipées?
Ah ben, c'est-à-dire là, vraiment, ça a été un pari de Pauline Marois, la Première ministre démissionnaire aujourd'hui, qui avait parié qu'elle avait un gouvernement minoritaire, que pour avoir un gouvernement majoritaire, il fallait profiter du moment. Elle pensait que le Parti libéral, qui avait pris un chef récemment, M. Couillard, n'était pas encore prêt, disons, à se lancer à la bataille électorale, et que le deuxième parti, si on veut, plus ou moins indépendantiste, plus conservateur, la coalition Québec, était dans les sondages, était en mauvaise situation. Donc, de ce calcul, elle avait décidé que c'était le bon moment, il ne fallait pas attendre, et que c'était un bon moyen de rebondir.
C'est le bon moment, mais c'est le mauvais choix.
Ah, totalement, ça, elle s'est trompée, totalement, ça, il n'y a aucun doute.
Alors, comment expliquer cette victoire plus que confortable? Parce que la majorité est à 63 sièges sur 125.
Ah oui, les libéraux sont en une majorité énorme. Là, y a pas, enfin, très, très là, ils sont tranquilles, il n'y a pas de problème pour le temps qu'ils veulent.
Au moins pour 4 ans.
Pour l'expliquer, il y a deux choses, je pense. D'une part, c'était une mauvaise lecture politique, sans le doute, de la situation du pays, de la réflexion politique, etc. D'autre part, les libéraux ont joué, bien entendu, en agitant le chiffon rouge d'un éventuel référendum sur l'indépendance, en sachant qu'à peu près, très large majorité de gens n'en veut pas. Et une forte majorité en veut, mais une large majorité n'en veut pas. Et aussi en agitant comme un autre chiffon rouge qui a surtout dans les régions a pris tout son sens, c'est la charte pour la laïcité.
Alors on va y revenir, Jacques Porte. Quel sort faire à cet argument qui consiste à dire, je le vois dans la presse, la tendance, pendant la campagne bien sûr, auprès des opinions publiques, la tendance s'est inversée lorsque Pierre-Carl Péladeau, qui est patron de l'Empire médiatique et québécois, et tête d'affiche du Parti québécois, a promis, et je le cite, de faire du Québec un pays. Alors est-ce que ça a été, comme on a dit, cette déclaration, un cauchemar pour le Parti québécois?
C'est tout à fait épisodique, ça.
Bon, bah écoutez, rangeons l'argument.
La tendance, si on veut, depuis 1995, où le dernier référendum était passé de justesse, le nom était passé de justesse, depuis ce temps-là, c'était un référendum de fin de cycle, à mon sens, et depuis ce temps-là, il n'y a jamais de majorité, aucun risque de majorité pour un référendum. Et à ce moment-là, la déclaration de Péladeau, c'est pas très important.
C'est pas très important.
Non, c'est pas très important. Bon. Il y a des choses plus de fond là qui ont joué dans l'opinion, dans l'insatisfaction par rapport à ces options, certainement, qui n'était pas question d'ailleurs pour le président du Parti québécois de lancer un référendum, il l'avait bien écarté. Mais l'idée même servait de
repoussoir.
Et de repoussoir tout à fait. Et en plus, le gouvernement avait choisi de faire, dans le fond, un peu comme chez nous, de faire des mesures sur la société, la charte de la laïcité, et qui a levé beaucoup de mécontentement, d'incompréhension dans le pays, parce que c'était une intervention de l'État dans les domaines de valeurs civiques, si on veut, et religieuses, et ça a assez mal passé, quoi.
Alors, quels étaient les grands attendus de cette charte sur la laïcité?
En gros, c'était pas du tout inspiré d'ailleurs de la France, hein, ça arrive au même résultat, c'était l'interdiction de signes religieux ostentatoires, enfin c'est parce qu'elle a été votée, l'interdiction de signes religieux ostentatoires sur la voie publique.
Sur la voie publique et dans les administrations?
Oui, absolument.
Et donc elle était passée de quelle façon cette charte? Je veux dire, confortablement?
Elle avait été discutée très longuement, alors ça c'est des méthodes qui sont très typiques de ces pays, discuté très lentement par la commission des activités non déraisonnables, enfin tout ce qui était C'est une commission qui a tourné dans tout le Québec pour étudier les cas où il y avait eu des musulmans qui avaient été ou discriminés ou qui avaient essayé d'obtenir quelques avantages dans les écoles ou autres, de voir aussi quelle est la position des autres religions, quelle était la position de l'État par rapport à ça. Ça a duré pendant un an, il y a deux ans à peu près, ça a duré pendant un an cette commission. Et qui a donc produit un rapport dont a été issue finalement la dite charte.
Alors on reviendra sur sa charte un jour, mais on va juste dire un mot de l'économie. Est-ce que le Québec, donc par-delà son appartenance au Canada, est-ce que le Québec a traversé cette période si mauvaise pour l'Europe de la crise économique mondialisée à partir de 2008, surtout en Europe, d'une façon, on va dire, plus tranquille qu'ailleurs ?
Absolument plus tranquille qu'ailleurs. Et ça, le Canada dans son ensemble, et le Québec aussi, bien sûr, ont assez peu subi les effets des dérives bancaires, des subprimes de 2008 qui ont plombé complètement nos économies. Pourquoi ont-ils moins subi ? Parce que les banques canadiennes ne sont pas situées au même niveau et aux mêmes jonctions internationales que les autres, certainement. Peut-être pas plus de prudence aussi dans leur gestion, mais enfin, c'est certain qu'ils ont échappé un peu à ça. Alors, ils ont échappé à ça, il n'y a aucun doute, relativement échappé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Et l'économie a continué à croître doucement, mais à croître. En revanche, ils ont subi directement, alors plus en Ontario qu'au Québec, mais la crise automobile, puisqu'il y avait beaucoup d'industries automobiles. Toute l'industrie automobile américaine était installée dans la région de Toronto, si on veut. Et ça qui a été, bien sûr, supprimé après 2008, tous les emplois ont été perdus et tout ça. Donc ça ils ont, c'est pas tellement au Québec, mais à l'Ontario, ils ont subi assez directement ça.
Est-ce que vous avez en tête le chiffre du chômage actuellement ? En gros,
à mon avis, autour de 7, sans doute.
D'accord. Alors, maintenant, il faut parler évidemment de l'impétrant. Donc, M. Philippe Couillard, il n'a jamais voulu faire de sa carrière dans les partis politiques, dit-il. Je n'ai jamais voulu être politicien de carrière, mais ça lui tombe dessus, apparemment, sans déplaisir. Alors, bon, il a une carrière d'ailleurs neurochirurgien. Il a passé 4 ans en Arabie Saoudite. Il a été accusé, apparemment, à juste titre, d'avoir un compte bancaire dans le paradis fiscal anglo-normand de Jersey, est-ce que c'est vrai ? Il percevait ses émoluments saoudiens. Enfin, je lis des dépêches des dépêches de l'AFP d'ailleurs. Alors, quels sont les linéaments de cette personnalité ?
J'avoue, je vois étrangement que je le connais assez peu, étant donné qu'il n'avait pas une carrière très grande. Donc, il a été ministre déjà une fois, je pense, du temps du gouvernement Charest.
Oui, santé.
C'est une personnalité qui était pas extrêmement connue, qui a repris le Parti libéral qui était en déshérence complète donc l'an dernier, et qui lui a apparemment réussi à le dynamiser. Quoi.
Oui, parce que le Parti libéral avait quitté le pouvoir en 2012 dans la foulée du printemps érable, comme on a dit.
Ah oui, absolument, oui.
Avait de grandes manifestations, vous nous en aviez parlé à l'époque. Et c'était vraiment une sorte de déconfiture, parce que je crois qu'il était accusé aussi, un certain nombre de ses membres, de collusion, de trafic d'influence, de clientélisme. Je vois des tas de chefs d'accusation.
Des accusations comme ça qui traînent. Mais il est certain qu'il a réussi. Il a réussi à redresser à peu près la barre au Parti libéral qui en avait bien besoin. Avec le fait aussi, qui est un fait un peu particulier au Québec, c'est que quand les chefs politiques, quand ils démissionnent quand ils sont battus, et souvent comme ça, il y a des hommes relativement neufs qui sortent
du chapeau
de la société civile et qui peut un peu entrer dans le jeu. Quoi.
Alors justement, quel est son programme ? Parce que qu'est-ce qu'il a ? D'ailleurs, vous allez me dire que quand on promet quelque chose pendant une campagne, on fait le contraire après. Mais...
Non, pas tout à fait. Là, c'est-à-dire que là, si on veut, c'est le... si vous voulez, au niveau de comment on est dans tous nos pays, au point de vue gestion de l'économie, ils sont à peu près d'accord. Ils étaient à peu près d'accord, aussi bien PQ que libéraux. C'est-à-dire il faut arriver, ils étaient déjà arrivés, il faut maintenir le déficit zéro. Ils y sont à peu près arrivés depuis quelques années. Et il faut maintenir donc les grands équilibres, etc. Tout là-dessus, ils sont à peu près d'accord. Le Parti québécois n'avait plus rien de socialiste, si on veut, véritablement. Donc là-dessus, le programme du Parti libéral était un programme plutôt de défense, dans le fond, des valeurs traditionnelles. Pas de référendum, n'en a pas besoin, c'est de la perte de temps, c'est pas non plus d'intervention de l'État dans des domaines qui sont les domaines culturels ou tout comme la charte semblait l'indiquer. Et c'est ça, surtout plus qu'un programme véritable de économique ou social, où ils n'ont pas énormément de choses à proposer.
Mais alors, en plus, ils arrivent, si j'ai bien compris, dans des circonstances économiques, dans un contexte économique relativement peu pénalisant, et en plus, ils profitent d'une, comment dire, pendant 4 ans, d'une majorité acquise. Il a devant lui un boulevard.
Il a un boulevard absolument intégral. Il a un boulevard, il a une majorité totale au Parlement, il peut durer 5 ans s'il veut. Rien ne l'oblige à dissoudre à quelconque moment. Donc il a vraiment devenu un boulevard. Il faudra voir ce qu'il va faire d'autre part. Bon, au point de vue institutionnel, il n'y aura pas de changement. On est toujours dans la même situation avec le reste du Canada. Il n'y a plus de raison de changer puisque ça ne bouge pas. Donc il n'y a pas de motivation pour changer. Mais il s'ouvre véritablement un boulevard et qui écarte, ce qui était d'ailleurs entendu, mais enfin, qui écarte encore plus nettement la perspective d'une consultation quelconque sur la dépendance ou du Québec.
Est-ce qu'on peut dire que justement cette question du référendum, comme on dit, donc le premier en 80, le deuxième, le second en 95, cette question du référendum a d'une certaine façon inutilement pollué la campagne de part et d'autre ou non?
Ah, je pense que oui. D'une part parce que le Parti québécois, inévitablement, enfin, c'était sa nature, bien qu'il ne pensait pas lancer un référendum, était obligé de laisser entendre qu'il n'y aurait un jour, disons. Parce que c'est sa fonction même. Hein. Sinon, il n'a plus sens d'exister, en quelque sorte. Et les autres, bien sûr, avaient tout à fait tendance à dénoncer une consultation qui est totalement inutile et que les Québécois ne voulaient pas.
Voilà.
Non, ça, c'est certain. Mais ça, c'était, si vous voulez, inscrit dans les gènes, en quelque sorte, du Parti québécois.
Bien,
le Parti québécois a été créé en 1976 pour arriver à l'indépendance.
Merci de
Depuis, il a mis beaucoup d'eau dans son vin, mais il a géré, il a retardé les issues, il a fait autre chose. Mais enfin, malgré tout, c'est son ADN, c'est vraiment ça. Donc il est obligé, les dirigeants du Parti québécois ont toujours été obligés de jouer un peu avec la possibilité de...
Très bien.
Et il est certain que les autres se sont emparés de ce...
On reparlera de tout cela le moment venu, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de grains à moudre sur cette question québécoise. Merci de cet éclairage. Vous êtes professeur émérite à Paris 8, spécialiste de l'Amérique du Nord, franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Et puis demain, d'une élection l'autre, l'Indonésie, Marc.
Merci Thierry Garcin. Et bien sûr, les enjeux sur franceculture.fr.